Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une enquête sur l'autre campagne présidentielle, celle qui se joue sur les réseaux sociaux. On va voir qu'ils pèsent de plus en plus lourd, mais qu'en même temps, on y trouve de tout et souvent n'importe quoi. C'est vous qui allez nous expliquer ça, Anne Brunel. Bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Et puis nous recevrons Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez La Chambre des Innocents, c'est un voyage au cœur de la commission qui indemnise les victimes d'erreurs judiciaires. Et on va voir que les tarifs pratiqués sont parfois assez surprenants.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Voici le youtubeur politique français le plus populaire, Jean-Luc Mélenchon. Sa petite entreprise prospère. Le vice-président du FN a lancé début janvier sa chaîne YouTube pour faire découvrir lui les coulisses de la campagne et on saura décidément tout. François Fillon, de son côté, a mené une campagne parallèle pendant la primaire et il est toujours possible de donner son avis aujourd'hui.
Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un reportage diffusé sur TF1 qui montre bien qu'il existe, au-delà de la campagne présidentielle qu'on peut suivre dans les médias qu'on dit maintenant traditionnels, une autre campagne qui, elle, se déroule sur Internet. Et cette campagne, eh bien, il ne faut pas la négliger puisque les chiffres le montrent, Anne Brunel. On s'informe de plus en plus sur YouTube ou les réseaux sociaux et de moins en moins avec les journaux ou la télé.
Un seul chiffre pour donner une idée de la dynamique qui est à l'œuvre. La première source d'information pour plus de 40% des jeunes électeurs en France, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Et pour donner une idée de ce qui nous attend à l'avenir, aux États-Unis, durant la campagne électorale de 2016, ce taux dépassait les 60%.
Ouais, donc ce qui veut dire que c'est bien là désormais que se joue donc une partie du scrutin, et peut-être même de plus en plus. Alors justement, voyons ce qu'il en est de la campagne numérique de nos candidats. On l'a entendu en introduction, Anne, la révélation de 2017 en la matière, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Incontestablement, au fil des mois, il est devenu une véritable icône de la pop culture Internet. D'une part, à travers sa propre chaîne YouTube, qui cumule déjà plus de 20 millions de vues. Mais il faut ajouter à cela la multitude de micro-vidéos réalisées spontanément par de jeunes sympathisants, qui contribuent à viraliser et à entretenir l'image du candidat de la France insoumise.
Une image beaucoup plus décontractée, on peut dire, que celle qu'on avait connue en 2012.
Alors ça, il n'y a pas de mal, c'est une évidence. Et le meilleur exemple de ça, c'est la façon dont il a été conduit par ses fans à reprendre un slogan qui avait circulé sur le web américain pendant la campagne Trump, comme nous le raconte le jeune web vidéaste Usul.
Sur les réseaux aux États-Unis, il y avait une base de militants, de cyber-militants qui étaient très actifs et qui avaient un slogan, c'était « Can't stomp the Trump ». Oui, on ne peut pas stopper le Trump. Et eux ont décidé, les militants de Mélenchon, pour rigoler, de dire « Eh ben, on va l'adapter à Mélenchon », et ça donne « Quand Stanchon au Mélenchon », ça ne veut plus rien dire, il n'y a même plus de jeu de mots. Et on voit, il y a une vidéo dans laquelle Mélenchon lit le slogan, parce que lui-même n'a pas compris, son équipe n'a pas compris au début ce que ça voulait dire « Quand Stanchon au Mélenchon », ils ont tous bloqué là-dessus. Quand ils ont fini par comprendre ce que ça voulait dire, ils se sont dit « Bah, très bien ». Et Mélenchon, dans la vidéo, a répondu « Yes, oui, Canchon ». Donc, il y a un échange d'humour, il y a un truc un peu bienveillant, mais parce que je pense que Mélenchon, il a un charme particulier, de papy un peu largué. Finalement, c'est parce que ça le dépasse que les gens trouvent ça intéressant de jouer avec.
Oui, il cultive donc une image un peu décalée qui finalement le sert. Mais si Jean-Luc Mélenchon a choisi de s'installer sur Internet, Anne, c'est d'abord et surtout parce qu'il y a vu une opportunité de contourner les médias traditionnels.
Exactement, et cette présence sur les réseaux sociaux est plus marquée chez les candidats qui se vivent comme exclus par le système. C'est un moyen pour eux de court-circuiter les médias, d'installer un dialogue direct avec leurs sympathisants en utilisant les méthodes classiques du marketing. Et c'est ce qui explique que le Front National soit un réel pionnier dans ce domaine, comme a pu l'observer le journaliste politique Dominique Albertini, un spécialiste des courants d'extrême droite sur Internet.
On a au départ une famille politique qui considère que la presse, comme l'ensemble des corps intermédiaires, est un adversaire qu'il faut chercher à contourner. Dans les années 80, le Front National cherche déjà tous les moyens possibles pour faire parvenir son message directement au public. On utilise des VHS. Jean-Marie Le Pen lance une radio-téléphone.
Hello ?
Vous décrochez le combiné, vous composez un numéro et vous avez une voix qui vous tient au courant des actualités du parti. Le Minitel, évidemment, dont le FN a été l'un des premiers partis à s'emparer, et Internet prolongent cet effort de l'extrême droite pour toucher directement le public. Et le Front National est le premier parti politique français à se doter d'un site Internet en 96, ce qui n'a rien d'un hasard.
Et au-delà de son site, Anne, sur Internet, qu'est-ce qu'il y fait le Front National aujourd'hui ?
Eh bien, le parti Front National et la candidate Marine 2017 ont des pages très suivies sur Facebook et Twitter, avec plus d'1 300 000 abonnés. Le FN a aussi sa chaîne YouTube depuis 2011, à quoi s'ajoute la chaîne de la candidate Marine 2017. Mais plus récemment, on a vu Florian Philippot monter, lui aussi, une chaîne YouTube très ciblée jeune. Il s'y exprime dans un décor où figurent toutes sortes d'objets qui sont autant d'allusions à la pop culture Internet, qui est en vogue sur le forum 18-25 ans du site jeuxvideo.com. Écoutez le vidéaste Usul nous décoder ses références.
Il utilise une espèce de mug sous lequel il a fait un clin d'œil à jeuxvideo.com à travers la figure de Ricitas. C'est une image d'un comédien latino-américain, il me semble, qui, dans une vidéo, avait un fou rire. Et le rire de ce gars-là, je crois qu'il est un peu édenté, il est devenu lui-même très utilisé sur jeuxvideo.com, donc lui-même le réutilise pour montrer « Regardez, je connais vos codes ». Donc là, on le voit avec une peluche Mario sur une balance, de manière un peu désinvolte, et on les laisse traîner dans un coin derrière. Et puis, finalement, faut voir aussi à quoi il se substitue. Du coup, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? C'est toute l'imagerie traditionnelle du FN qu'il n'y a pas. On retire les flammes, tous les trucs un petit peu à réac de base. Mais on le remplace par quoi ? Bah lui, il a trouvé ça, des signes anticonformistes, jeunes, en phase avec les gens qu'il essaie de séduire sur ce média-là.
Oui, cette volonté de séduire, de toucher un public qu'on ne peut pas atteindre donc par les canaux classiques, bah on la retrouve, pour les mêmes raisons d'ailleurs, hein, chez d'autres candidats.
Oui, et notamment chez François Asselineau, qui lui aussi se présente comme un anti-système. Alors lui, c'est un cas d'école, quasiment inconnu du grand public avant cette présidentielle. Ça fait pourtant longtemps qu'il rassemble sur le net, et notre vidéaste Usul confirme cette étonnante popularité.
Des gens qui sont comme moi sur Internet à tout bout de champ connaissent François Asselineau depuis des années parce qu'il a une présence extrêmement massive sur Internet. Il a surtout fait des conférences qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures dans lesquelles il rentre dans les détails de la construction européenne en disant que c'est la CIA et ce que François Mitterrand a dit avant de mourir. Donc il y a un côté très, très sensationnaliste et des gens sont convaincus. Il y a des vidéos de gens qui disent « Moi, je veux voter Asselineau parce que j'ai regardé 20 heures de ses conférences. » Ce sont eux qui sont allés chercher les signatures de maire et qui font qu'aujourd'hui, on a Asselineau à la présidentielle. J'ai même un copain qui tient une chaîne d'histoire et sous ses vidéos, il trouve des commentaires genre « Vous qui aimez l'histoire, vous devriez aimer François Asselineau qui aime aussi beaucoup l'histoire ».
Oui, comme quoi les peu visibles de la campagne peuvent être très visibles sur Internet. Bon, cela dit, il n'y a pas que les candidats qui se considèrent comme exclus des médias qui occupent les réseaux sociaux. En fait, ils y sont tous désormais. Alors, parlons aussi des autres. Anne, Benoît Hamon, par exemple, qu'est-ce qu'il fait sur le net ?
Alors, Benoît Hamon, c'est un tweetos de la première heure. Il s'y met en 2008, quand Twitter vient à peine de démarrer en France. Eh bien, depuis qu'il est en campagne, c'est le calme plat, la retenue dans le propos. Pas d'innovation remarquable et puis sur YouTube, pas de vraie dynamique.
Ouais, comme si la campagne l'avait un peu tiédi numériquement. François Fillon ?
Alors lui, on ne peut pas dire que ce soit une réussite vraiment non plus. C'est sûr, il a des équipes, une stratégie numérique, des éléments de langage propulsés sur les réseaux de façon planifiée, mais on n'est pas vraiment proche du public. Écoutez comment le définit Leïla Lévesque qui ausculte l'audience des réseaux pour l'Argus de la presse.
François Fillon, si je dois le résumer en une phrase, je dirais que c'est, en termes de stratégie, le candidat qui est le plus conventionnel, le plus distancié vis-à-vis de ses publics. Et là où c'est le plus visible, c'est sur Instagram. On voit toujours cette distanciation quand il serre la main des gens qu'il croise. Il y a ce mètre nécessaire entre lui et la personne à qui il serre la main.
Autrement dit, la distance présidentielle, ça peut convenir à un candidat à la télé, mais ce serait plutôt un handicap sur le net. Bon, et Emmanuel Macron, lui, comment il utilise Internet dans cette campagne ?
Alors Emmanuel Macron, il est soutenu par les patrons de start-up, ce qui est un signe. Il a évidemment une forte présence sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo, mais pour Macron, les technologies numériques ont surtout permis de pallier l'absence d'ancrage public et de base militaire. Et au cœur de sa campagne numérique ont été le recrutement et le profilage des électeurs potentiels. Une tactique appuyée sur une technique mise au point lors de la campagne Obama en 2008, que nous résume l'expert en marketing Fabrice Frossard.
Obama, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a utilisé un logiciel qui lui a permis de connaître chacun des citoyens américains. Et ce logiciel donc calcule et ressort le fait de dire « bah voilà, ceux-là, ils sont plutôt 30% républicains, 20% démocrates, et il y a N% d'indécis ». Donc le boulot, le job, c'était quoi ? C'était de mobiliser des équipes pour aller voir ces indécis. De là, s'en est suivi une campagne de porte-à-porte, parce que la politique se gagne sur le terrain, quoi qu'il arrive. Et là, ça vous a pas échappé, aujourd'hui, Emmanuel Macron a commencé par ça. L'idée, c'est bien de dire, on va aller taper à la porte de tous les citoyens, mais évidemment que ces citoyens ont été auparavant profilés, on sait exactement où on va. On va pas taper à l'aveugle.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on a vu que les candidats avaient des stratégies numériques différentes et que plus on se sent exclu du système et plus on investit Internet. Mais ce qu'on va voir maintenant, Anne Brunel, c'est que si tous existent sur les réseaux sociaux, eh bien ces réseaux sont en fait un gigantesque espace de manipulation.
Oui, la première forme de manipulation qu'on peut relever, c'est celle qui porte sur les chiffres.
C'est-à-dire ?
Vous savez que le fonctionnement algorithmique des plateformes sociales repose entre autres sur la popularité. En gros, le message qui sera le plus cliqué remontera le plus, du coup il sera de nouveau plus cliqué et plus partagé, donc plus vous avez de likes, de j'aime ou de fans, et plus votre vidéo sera vue, plus votre post sera lu. Sauf que le nombre de likes, de fans ou même de vues d'une vidéo, il peut être complètement bidon.
Ah bon, pourquoi donc ?
Pour le comprendre, écoutez ce que nous explique le sociologue Antonio Casilli, dont c'est précisément le domaine de recherche.
Il y a une économie cachée qui est faite d'un ensemble de structures plus ou moins légales et plus ou moins visibles, souvent dans des pays en voie de développement ou dans des pays émergents. On appelle ces structures des fermes à clics. Les fermes à clics, c'est des locaux dans lesquels des dizaines ou des centaines d'ordinateurs, voire parfois de terminaux mobiles, sont mis en place et des personnes, à longueur de journée, cliquent sur des contenus, des images, des articles pour les partager. Parfois, ils laissent des commentaires. Parfois, ils font le travail des petites mains d'Internet. Ce qui, évidemment, remet en discussion tout ce que nous savons sur la circulation virale de l'information.
Oui, ça veut dire en clair qu'il existerait des faussaires sur Internet, des faux internautes qui seraient payés pour faire gonfler artificiellement les chiffres sur les réseaux sociaux.
Oui, on appelle ça du marketing. Des entrepreneurs du numérique ont monté des plateformes web de micro-travail où tout un chacun peut proposer des micro-tâches contre un micro-paiement. Et parmi ces micro-tâches, certains proposent de faire gonfler les chiffres de vos pages web. En France, on trouve ce type d'offre, par exemple, sur la plateforme 5euros.com.
Oui, pour nous le démontrer, Anne, vous êtes même allée plus loin, puisque vous êtes vous-même entrée en contact avec un de ces gonfleurs de clics.
Oui, un de ces illusionnistes du net, c'est un Tunisien, Yassine, qui, sous la marque Achafan, s'engage en fait à vous ramener des milliers de fans supplémentaires sur votre page.
Je propose de tout, ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ça dépend de la personne qui me contacte. Si c'est une société, elle cherche par exemple LinkedIn et Facebook. Si c'est un chanteur, elle cherche que YouTube et Instagram.
Donc ça peut être aussi des people.
Oui, et j'ai même plein de chanteurs sur 5 euros et des chanteurs connus, mais juste pour augmenter la popularité.
Donc ça reste quand même eux qui postent les contenus.
Oui, et à moi de fructifier le nombre de vues ou de likes.
Oui, à moi de fructifier, c'est une jolie formule, en même temps très parlante. Donc, si je suis producteur, par exemple, d'un artiste, je fais appel à lui pour gonfler mes chiffres, mais les politiques le font aussi ?
Officiellement, personne ne se vante d'avoir recours à cette forme de triche, mais il est évident que compte tenu de la contrainte de temps d'une campagne électorale, si un candidat n'a pas déjà un ancrage fort sur les réseaux, un parti, un appareil, des militants, c'est une nécessité au moins pour amorcer la pompe.
Ouais, donc si je veux exister sur le net, je m'adresse à votre Yassine. Et lui, concrètement, il fait quoi ensuite pour faire décoller ma page ?
Alors, c'est justement la question que je lui ai posée, histoire un peu de comprendre la méthode.
J'ai deux méthodes. C'est une application qu'on a développée, une sorte de jeu. Pour gagner des points, il faut cliquer sur j'aime.
Sur le j'aime de ce jeu ou sur le j'aime de la page ?
Pour eux, ils cliquent sur le j'aime du jeu. Par exemple, partager et tout ça. Et en arrière-plan, ils cliquent sur le j'aime de la page.
Donc, en fait, les gens n'en ont pas conscience.
Ils n'ont pas conscience. C'est-à-dire, j'injecte des faux profits. Mes faux profils, c'est des profits créés par robots. Par exemple, le client, il veut 100 000 en deux jours.
100 000 nouveaux abonnés en deux jours, c'est ça?
Oui, je peux livrer jusqu'à 50 000 par jour, en faux profil.
Ah oui, 50 000 faux profils par jour, donc ça signifie en fait que les chiffres ne veulent rien dire.
Ah oui, mais il n'y a pas que les chiffres qui mentent sur les réseaux sociaux, les informations aussi peuvent être fausses. Vous avez ainsi des auteurs du net qui écrivent de faux articles, au contenu étonnant ou inquiétant, dans le seul but de les faire diffuser et partager le plus possible, après avoir capté l'attention du lecteur. Il y a donc, à côté de ces fermes à clics dont on vient de parler, ce que le sociologue Antonio Casilli appelle des usines à contenu.
Les usines à contenu sont des structures qui rappellent parfois des rédactions ou des agences de communication, sauf qu'elles sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus atomisées. Vous avez des personnes qui travaillent une fois par semaine pour écrire un texte, mais parfois cela sert exclusivement pour créer une suite de mots-clés qui sert en gros à tricher avec les algorithmes des moteurs de recherche. Par exemple, faire en sorte que dans un article vous disiez quatre fois Donald Trump, meilleur président de l'histoire des États-Unis, pour que le moteur de recherche référence votre site et le contenu de votre site au top du référencement.
Alors là, il invente un cas type, Anne Brunel, mais est-ce qu'on a des exemples avérés de ce type de faux articles?
Tout à fait, et si Antonio Casilli évoquait Trump, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a effectivement vu émerger pendant la campagne américaine en 2016 toutes sortes de fausses nouvelles destinées à être partagées le plus possible. C'est ce que m'a expliqué depuis Toronto le journaliste Sam Deberley. Il fait partie de l'organisation numérique internationale First Draft News qui traque ces fausses nouvelles.
On a vu un très bon exemple aux États-Unis où il y avait une histoire qui était sur un site inconnu. C'était que le pape soutenait Donald Trump. Le problème, c'est que c'est pas vrai. Donc, cette histoire, elle circulait sur Facebook, c'était vu plus d'une million de fois. Il n'y avait personne qui disait « Non, ceci n'est pas vrai ».
Oui, si ce type de fausse information circule sur Facebook, on comprend, c'est évidemment parce que ça va faire le buzz, comme on dit, mais c'est aussi, et ça paraît dingue, parce que certaines plateformes rémunèrent ceux qui les fabriquent, ces faux postes.
Bien sûr, puisque c'est à elles, au final, que ça rapporte. Alors, les sommes versées ne sont pas forcément importantes, mais ce qui est sûr, comme nous l'explique encore Antonio Casilli, c'est que l'argent joue un rôle déterminant dans la production de postes bidons.
Si on arrive à créer, à voir proliférer des fausses nouvelles, c'est parce qu'il y a des incitations économiques pour la production de cette information manipulée et biaisée. Et ces incitations économiques partent des plateformes généralistes qui finissent forcément par héberger cette information. Je pense typiquement à Facebook. Facebook se retrouve, parfois par la structure même des algorithmes, parfois aussi par le modèle économique qui favorise la vente et l'échange de clics et de partages. Donc l'achat de clics et de partage se retrouve de fait à favoriser cette économie.
Ouais, donc on paye des fabricants de fausses infos. C'est un peu comme si une salle des ventes, quelque part, rémunérait des faussaires pour avoir plus d'objets à vendre.
C'est un peu ça. Et comme toujours, lorsqu'il y a un marché, il y a une main-d'œuvre qui se développe. Et en l'occurrence, une partie de cette main-d'œuvre se trouverait en Europe de l'Est.
On a constaté qu'un nombre vraiment important de fake news, de fausses nouvelles, venait de la Macédoine et en particulier d'une petite ville dans laquelle on avait un problème de chômage assez important pour les plus jeunes. Bref, la plupart de ces fake news sont produites par des jeunes de 17-19 ans maximum et qui donc gagnent un peu de l'argent en produisant des contenus qui ont une potentialité de circulation virale plus importante. Parce que, en gros, le modèle d'affaires de cette petite combine qu'ils ont montée consiste, en gros, à être payé selon le nombre de clics.
Qui les paye ?
C'est des plateformes qui acceptent de héberger ces contenus elles-mêmes pour créer du trafic et ensuite revendre des espaces publicitaires à des régies publicitaires.
Non mais attendez Anne Brunel, c'est un fonctionnement complètement délirant qu'on décrit là. On a des réseaux sociaux qui ont pignon sur rue et qui eux-mêmes encouragent la production de fausses nouvelles.
Mais oui, c'est ce qu'on appelle faire du business. Mais cela dit, les plateformes jouent sur les deux tableaux. D'un côté, c'est vrai, elles encouragent structurellement ce phénomène. Mais de l'autre, elles jurent la main sur le cœur qu'elles veulent tout faire pour lutter contre ça. Parce que c'est vrai que c'est pas très très bon pour leur image.
Et lutter contre ça, ça veut dire quoi précisément?
Alors les géants américains du numérique se sont récemment lancés, en fait quelques mois après l'élection de Donald Trump, dans une sorte de collaboration avec les médias professionnels. Facebook, par exemple, leur propose de faire de la vérification collection d'informations en vue d'apposer un logo sur les contenus qui se révéleraient faux. Et Google promeut de son côté l'utilisation d'un outil de surveillance du buzz intitulé Google Trend, comme l'explique David Dieudonné, qui est le responsable pour la France du Google News Lab.
Google Trends, c'est un outil qui permet de voir en temps réel ce que les gens cherchent sur Google. Et donc, ça permet de repérer des espèces de tendances de recherche et des questions qui sont associées, par exemple, à des hommes politiques ou à des problématiques données. Donc, ainsi, on pourra voir monter potentiellement des fausses informations sur le moteur de recherche et ainsi proposer aux médias partenaires d'intervenir pour démasquer ces fausses informations. Un exemple qui a eu lieu pendant les primaires, vous vous souvenez sans doute de ces fausses informations qui circulaient sur Alain Juppé avec cette dénomination Ali Juppé, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ben, ça faisait partie des requêtes qui étaient en augmentation sur le moteur de recherche et on a pu voir cette requête augmenter. C'était un bon signal pour les journalistes qui potentiellement pouvaient aller voir comment on pouvait les corriger.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment des faussaires du net gonflent les chiffres des posts publiés sur les réseaux sociaux et comment ils publient de fausses informations. Mais on va aller plus loin maintenant, Anne, et on va voir comment les médias dits traditionnels sont, eux, représentés sur le net. Parce qu'on va se rendre compte qu'on a une surreprésentation de médias qui, hors d'Internet, passent plutôt sous les radars.
Effectivement, et ça, c'est une agence de communication, Reputation Squad, qui l'a démontré. Elle a essayé d'identifier quels étaient les médias français en ligne les plus appréciés sur Facebook. Et cette analyse a mis en évidence une hiérarchie parfois surprenante. Les publications médias les plus likées sur Facebook sont d'abord celles de 20 minutes et du Parisien, puis viennent l'Express, l'Obs, le Figaro et le Monde.
Bon, jusque-là, rien de très surprenant, non ?
Ah oui, mais attendez de découvrir quels médias on trouve à la 7e place. C'est assez inattendu. Écoutez ce qu'en dit le mathématicien Mexan Chenbo, auteur de cette étude sur les données de Facebook.
Il y a une chose qui nous a frappé, c'est qu'on a la présence, en termes d'influence, de Russia Today France et de Sputnik News, qui sont deux médias étrangers, alors là c'est leur antenne France, qui pour Russia Today France par exemple, est devant Mediapart, Le Point et Libération, qui sont pourtant des médias traditionnels. Et donc leur stratégie est un peu différente puisqu'ils vont avoir pas nécessairement beaucoup de likes par statut, mais ils vont faire beaucoup 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 de statuts et essayer en fait d'inonder un peu sur Facebook de news.
Ah oui, donc deux médias russes, et d'ailleurs peu de gens savent qu'ils sont russes. RT, on connaît pas forcément. Dame Le Pion a d'autres médias français sur Facebook. Et ils ont donc une vraie force de frappe, ce qui est d'ailleurs pas anodin, puisque leur publication donne une image de la France assez particulière.
Oui, c'est ce qu'a constaté Romain Pigenel. Il dirige le pôle numérique du SIG, le service d'information du gouvernement. Il a été témoin de l'arrivée sur les réseaux français de ces médias russes.
Je me souviens les avoir vus apparaître vraiment par hasard dans nos outils de veille, parce qu'ils commençaient à ressortir, tant en quali qu'en quantitatif, d'abord pour appuyer des points de dissension au moment du mariage pour tous. C'était tout à fait exemplaire de la stratégie après qu'ils ont massifiée, et qui est d'ailleurs totalement assumée. Il y a des doctrines qui sont disponibles, où ils expliquent bien que leur but n'est pas forcément de dire que c'est eux qui détiennent la vérité, mais c'est d'insister sur les points faibles des démocraties occidentales pour montrer qu'il y a des dissensus aussi en Occident. Deuxième moment où ils ont été également en pointe, c'est pendant par exemple les manifs de policiers qui avaient lieu à l'automne dernier. Qui a assuré une couverture en live via Periscope, via Facebook Live de ces manifs-là avant tout le monde et en temps réel? C'était aussi ces médias-là. Donc on voit bien qu'il y a une stratégie alors de mettre le doigt sur les endroits parfois qui sont minoritaires, mais où on a l'impression que nos sociétés vont mal, sont dans un sentiment de chaos, etc., etc.
Ouais, ce qui veut dire qu'Internet via Russia Today véhiculerait une forme de propagande. Hein. Mais il y a encore un autre travers qu'on peut identifier dans le fonctionnement de ces réseaux sociaux.
Oui, on peut observer un autre phénomène. On a accès sur les réseaux sociaux à une foison d'informations. On pourrait donc en déduire naïvement que l'espace démocratique est plus ouvert. Mais c'est en réalité l'inverse qui se produit. Car c'est un lieu qui réduit l'espace de débat en isolant les gens à l'intérieur de clans et de bulles de pensée en quelque sorte. Et ce phénomène, selon l'expert en stratégie de médias sociaux Tristan Mendes France, eh bien ça pose un vrai problème.
Si vous vous informez via votre réseau social, vous vous informez via des informations qui ont été partagées par des gens qui ont une tonalité idéologique et politique pas loin de la vôtre. Ça enferme les communautés, ça radicalise un peu les opinions. Comment est-ce que Fillon peut parler aux électeurs de gauche sur Facebook ? Ben, il peut pas. Il peut pas les atteindre. Il faudrait qu'il parle sur un média ou qu'il soit sur un article qui soit relayé par des amis de cette même personne. Ce n'est pas possible. la fabrique de l'opinion de demain se fera à travers les réseaux sociaux. Donc ça va avoir des conséquences profondes et je crois que c'est le début de commencement de quelque chose.
Oui, de quelque chose d'assez effrayant, puisque vous avez de fait un accroissement de l'information politique sur les réseaux sociaux, mais des réseaux où l'on est confronté à des chiffres biaisés, à des informations qui ne sont souvent pas fiables, et à l'intérieur desquels chacun se replie dans sa sphère de pensée. Bref, pas sûr que le débat politique en sorte renforcé.
En tout cas, nous voici, grâce à vous, Anne Brunel, un peu plus éclairée. Merci pour cette enquête, une enquête qu'on peut relire ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter, mais que vous pouvez également commenter, comme chaque semaine, sur la page Facebook de Secret d'Info. Et je vous garantis que nous vérifions soigneusement tout ce que nous y postons et que nous n'avons jamais recours à des gonfleurs de clics. Allez, restez avec nous dans un instant avec notre invité. Tout autre chose, on va évoquer les chiffres assez étonnants des indemnisations des victimes d'erreurs judiciaires. Voilà, c'est un peu les nouvelles technologies appliquées à la musique. C'était Andromeda, interprété par Drame, avec le groupe virtuel Gorillaz, groupe fondé par Damon Albarn, l'ex-membre des Blur.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez chez Flammarion La Chambre des Innocents. Vous avez suivi pendant plusieurs mois les audiences de la Commission Nationale de Réparation des Détentions. C'est une sorte de cour d'appel qui fixe le montant des indemnisations accordées aux victimes d'erreurs judiciaires. Alors ce qui frappe d'abord quand on vous lit, c'est qu'une journée de prison, finalement, ça vaut pas très cher aux yeux de la justice.
L'indemnisation, effectivement, on est autour de 60 euros pour une journée. Ça représente rien par rapport à ce qui s'est passé ensuite. Quand on passe une journée en prison, souvent on perd son emploi, on perd les liens avec sa famille, on perd son logement. Ce sont des individus qui sont passés par la justice et qui ont laissé toute une partie de leur âme et de leur existence. Et ça, il faut le mesurer.
Qu'est-ce qui fait qu'on laisse encore à l'appréciation des juges le coût d'une journée de prison. Il y a des pays dans lesquels, vous l'expliquez, il y a des barèmes, vous donnez même des chiffres. Par exemple, première journée de prison au Danemark, c'est 650 euros. On est loin de nos 60 euros. Par contre, en Allemagne, c'est 11 euros. Là, c'est dérisoire. Mais il y a des barèmes.
Il y a des barèmes et chaque pays a ses particularités. En Espagne, il y a même une autre particularité qui, je pense, en France serait inacceptable. C'est que il y a deux catégories d'innocents en Espagne. Il y a les innocents purs, en quelque sorte, c'est-à-dire les gens qui ont été accusés à tort, sur lesquels l'enquête a été bâclée et qui touchent une somme d'argent assez confortable. Et puis, il y a les innocents gris, et j'en ai croisé en France dans ce récit, qui sont des gens qui, par le jeu judiciaire, ont été finalement acquittés, mais on sent bien qu'il y a quelque chose derrière. Et pour cela, l'Espagne considère qu'ils n'ont pas le droit à une indemnisation importante.
Oui, ce qui est intéressant dans ce débat aussi, c'est de se dire que, ok, c'est bien d'avoir un barème, mais d'un autre côté, pouvoir apprécier en fonction du préjudice, parce que chaque exemple est particulier, c'est peut-être pas forcément non plus impertinent. Vous citez par exemple l'exemple de ces frères gendarmes qui ont été condamnés à tort, donc dans une affaire d'escroquerie. C'est l'honneur du gendarme qui est brisé, c'est tout ça qui s'effondre. Il y a cet énarque aussi bordelais qui veut donner des cours à HEC. On lui dit, mais de quel droit vous nous donnez des cours alors que vous-même avez fait de la prison?
Il y a effectivement ces gendarmes, la valeur de leur vie, c'était leur uniforme, c'était leur grade, sous-officier, officier supérieur, c'était la valeur du bleu, c'était l'appartenance du corps et les honneurs militaires.
C'est l'honneur du samouraï quelque part.
Absolument, et ça, c'est leur vie. On peut pas le comprendre si on n'est pas dans leur corps et dans leur tête. L'énarque, effectivement, c'est d'avoir construit toute une vie. C'est un homme qui était effectivement directeur des affaires culturelles à Bordeaux, qui se retrouve pris dans une affaire d'abus de faiblesse. Et toute sa vie, c'était de construire l'administration, échelon après échelon, d'être respecté, admiré par Alain Juppé, puisqu'il en parle lui-même. Et quand tout ça s'effondre, il va passer quelques mois en prison, mais surtout quand il va en sortir, il fait un cours à Sciences Po face à des gens qui sont censés être l'élite de la République et qui se comportent comme les pires témoins de la chanson de Brassens sur la mauvaise réputation, qui vont lui dire « Ah bon, monsieur, mais vous avez appris ça en prison ?» Mais pour lui, c'est un monde qui s'effondre. Et quand plus tard, il va dans une compagnie d'assurance pour faire des interventions, lui dit « C'est plus possible de venir,
il
monsieur. »
Il est rayé de la liste.
Quand on vous met sur le programme, nos cadres vont sur Google, ils tapent votre nom. Il regarde votre histoire et c'est, vous êtes disqualifié de votre vie sociale, vous êtes disqualifié de toutes vos ambitions. Et toutes ces vies-là, elles s'effondrent sur des rêves qui sont extrêmement importants pour les individus, mais qui ne peuvent pas être dans un code. Ça ne peut pas être dans un code administratif, ça ne peut pas être dans un code de procédure pénale. Ouais. Et malgré tout, il faut le chiffrer.
On va donner un chiffre justement pour cette personne que vous citez à Bordeaux. C'est 15 000 euros de préjudice moral pour précisément 98 jours de prison. Et alors, ce qui est choquant, c'est que vous citez pas à l'opposé l'affaire Tapie face au Crédit Lyonnais, qui lui se voit accorder un préjudice moral, pas matériel, de 45 millions d'euros, et vous citez le juge Thiel, Gilbert Thiel, qui dit, c'est comme si on le compare à d'autres décisions, c'est comme s'il avait perdu 1800 enfants d'un coup.
C'est le choc. L'une des raisons de ce livre, c'était l'affaire Tapie, parce qu'effectivement, on voit ce que représente la mort d'un enfant dans un accident de la route, on voit combien représente une indemnisation pour un jour de prison, et effectivement, il y a un décalage total avec les autres indemnisations qui peuvent être fixées. Celle-là était tellement caricaturale, je pense qu'elle le restera à vie, cette affaire, que ça représentait un nombre d'enfants morts, donc c'était un choc extrêmement important. Mais la prison, aujourd'hui, elle ne sera jamais indemnisée aussi de façon aussi importante que pour une affaire financière. L'indemnisation individuelle pour ces élites de la République ou de la vie économique qui viennent la chercher, elle restera plus importante. Et ce qui est très frappant, et c'était un peu c'est ce qui vient en soutien de ce raisonnement, c'est que cet énarque qui était axé sur la République et sur l'ambition, ce qu'il venait chercher, c'était pas des milliers d'euros. Ce qu'il venait chercher, c'était des mots que l'institution n'arrive pas à donner.
De reconnaissance. Alors la Chambre des innocents, elle est publique. En revanche, il y a des indemnisations qui, elles, se jouent secrètement. Et vous citez notamment l'affaire Dils, Patrick Dils, qui a été acquitté du double meurtre de Montigny-lès-Metz en 2002. 15 ans de détention, il réclame 1,8 million. L'État en accorde 242 000 euros. Et l'avocat va s'indigner sur une radio en disant « Après l'erreur judiciaire, voilà la mesquinerie de la justice. » Et là, tout d'un coup, toc, l'agent judiciaire du Trésor, alors on apprend son existence, on ne connaît pas forcément, le contact, et là, il y a des négociations secrètes.
La Chambre des innocents, elle est en quelque sorte réservée aux anonymes. Effectivement, il y a les grosses affaires. On parlera sans doute de celle d'Outreau, mais Patrick Diels, effectivement...
C'est un peu pareil, négociation secrète pendant 3 ans. Ouais.
Patrick Diels, c'est l'une des grandes erreurs judiciaires françaises. Et effectivement, quand on arrive au moment de l'indemnisation, l'État propose une somme, elle est jugée dérisoire. L'avocat va à la radio, effectivement, et au retour à son cabinet après cette interview, il a un coup de fil d'un autre avocat qui lui dit « Bonjour, je travaille pour l'État, il faudrait qu'on se parle. » Et cette négociation va échapper à toute audience publique pour éviter sans doute une espèce d'exposition, de grand déballage autour de cette erreur judiciaire que la justice avait, à son sens en tout cas, suffisamment vue étalée partout. Donc ne sera pas évoquée la question de la terrible détention de Patrick Diels, où il a subi, lui, effectivement, dans la catégorie des agresseurs d'enfants, toutes les avanies qu'on peut imaginer. Et ne sera pas évoquée non plus la pire pingrerie de l'État qui aurait pu avoir lieu, c'est-à-dire que le texte tel qu'il est, l'article du Code de procédure pénale aujourd'hui, prévoit que si on a avoué, on n'a pas le droit à être indemnisé.
L'aveu engage la responsabilité de celui qui
a avoué, finalement, doit bien en subir les conséquences, puisque c'est lui qui a induit la justice en erreur. Et il était insupportable pour tous ceux qui connaissaient le dossier dans l'institution judiciaire de devoir débattre du fait qu'un garçon de 17 ans ait avoué un crime qu'il n'avait pas commis. Combien ça vaut le fait d'avoir avoué? 1000 euros? 2000 euros? Le débat était tellement indécent que je pense qu'il était mieux qu'il n'ait pas lieu.
Et même constat, on le disait pour l'affaire d'Outreau, fiasco judiciaire s'il en est, qui a donné lieu aussi à des négociations secrète pendant 3 ans, et vous citez les chiffres, il y aurait eu entre 650 000 et 1 million d'euros en indemnisation. On va finir avec un dernier chiffre d'ailleurs. Au total, tout ce qu'on vient d'évoquer, ça représente 10 millions d'euros par an.
10 millions pour les cours d'appel et 2 millions pour cette fameuse chambre des innocents. Ça veut dire qu'il y a un budget aujourd'hui qui est consacré en France pour réparer la détention provisoire. Mais demain, il faudra sans doute aussi réparer les contrôles judiciaires qui empêchent, par exemple, le fait à un médecin d'exercer pendant plusieurs années s'il est suspecté, à un pilote de ligne de travailler pendant plusieurs mois s'il est suspecté. Tout ça empêche de vivre. Tout ça aujourd'hui n'est pas réparé. La question sera exactement la même que pour la prison, c'est est-ce que c'est réparable?
Il y a encore du chemin à faire. Merci Mathieu Delahousse.
Merci.
Je rappelle que votre livre, La Chambre des Innocents, est donc publié chez Flammarion. C'est la fin de cette émission. Merci à Léa Dupouy-Hennequin qui m'a aidé à la préparer. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. À la technique, il y avait Nicolas Delmas et Pauline Laverdure avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Dans quelques instants, c'est CO de mon amour avec Denis Chessou qui vous emmènera dans le Marais Vernier. C'est dans l'heure. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.